du rétablissement de la censure par l'ordonnance du 24 juin 1827 par M. le Vicomte de Chateaubriand. Du rétablissement de la censure par l'ordonnance du 24 juin 1827. Discours de M. le Vicomte de Chateaubriand, pair de France, contre le budget de 1828, prix 1 franc 25 centimes et 1 franc 50 centimes par la poste. Opinion de M. le Vicomte de Chateaubriand, pair de France, sur le projet de loi relatif à la police de la presse. Paris, 2 francs et 2 francs 50 centimes par la poste. Du rétablissement de la censure par l'ordonnance du 24 juin 1827 par M. le Vicomte de Chateaubriand, pair de France. À Paris, chez l'avocat libraire, 1827. Avertissement. Je livre au public l'ouvrage rapide de quelques heures. J'y joins deux autres opuscules que je publiai en 1824 lorsqu'on établit la censure pour la première fois. On aura ainsi une vue complète du sujet. La presse non périodique doit venir au secours de la presse périodique. Je ne puis pas plus me taire sur la censure que M. Wilberforce sur la traite des nègres. Des écrivains courageux se sont associés pour donner une suite de brochures. On compte parmi eux des pairs, des députés, des magistrats. Tout sera dit, aucune vérité ne sera cachée. Si certains hommes ne se lassent pas de nous opprimer, d'autres ne se fatigueront pas de les combattre. Je remercie mes concitoyens de la confiance qu'ils me témoignent dans ce moment. J'ai reçu toutes leurs lettres, tous leurs renseignements, tous leurs avis. J'en ai fait et j'en ferai encore usage. Beaucoup d'ouvrages se préparent. M. Salvandry, dont le talent énergique est si connu, fera paraître le mois prochain une brochure sur l'état actuel des affaires. M. Alexis de Jussieu publiera dans quelques jours un écrit sur le même sujet. Ils m'ont prié d'annoncer leurs travaux. Je m'en fais un devoir, car il est probable que les feuilles périodiques n'auront pas la même permission de citer l'intitulé des ouvrages. Cependant, un titre conçu d'une manière générale constitue-t-il un délit? Voilà comment la censure sur les journaux est exercée, et comment elle nuit au commerce de la librairie. Un livre non annoncé est exposé à rester dans les magasins. Aussi la librairie est-elle menacée d'une nouvelle crise. Mais qu'importe tout cela à nos hommes d'État et à la stupide et violente faction qui désole la France? Si les propriétaires des journaux ont d'autres plaintes à porter contre la censure, s'ils jugent que je puisse faire entendre ces plaintes, ils me trouveront prêt à tout. Espérons que les lecteurs soutiendront plus que jamais les feuilles indépendantes de leur patronage. Ils ne se laisseront pas décourager si la censure empêche pendant quelque temps les journaux non salariés de réfléchir l'opinion aussi vivement qu'ils le faisaient. Le silence politique, les blancs, les suspensions, les procès sont des preuves de constance et de zèle qui seront appréciées des amis du trône et de la charte. Rallions-nous d'un bout de la France à l'autre contre les ennemis de nos libertés. Patience et esprit public remporteront la victoire. Épigraphe. on réclama hautement la liberté d'écrire et de publier ses pensées par la voie de l'impression. Et la liberté illimitée de penser et d'écrire devint un axiome du droit public de l'Europe, un article fondamental de toutes les constitutions, un principe enfin de l'ordre social. Entre parenthèses, Vicomte de Bonald, séance des députés, 28 janvier 1817. Aujourd'hui que le gouvernement peut tout contre le citoyen, ne doit-il pas laisser aux citoyens quelque abri contre un pouvoir si illimité ? Ibidem. Les gens habiles ne sont pas tous dans les conseils, et ceux-ci, placés à une juste distance des objets, ni trop haut ni trop bas, peuvent savoir bien des choses qui échappent à l'attention ou à la préoccupation des hommes en autorité, et leur dire, par la voix des journaux, d'utiles vérités qu'ils ne voudraient pas enfouir dans les cartons d'un bureau, ni soumettre à la censure d'un commis. Peut-être, au premier instant d'une explosion, les déclamations des journaux ne seraient pas sans quelque danger. Mais à la longue, et lorsqu'on a à lutter contre des causes secrètes de désordre, leur silence ne serait-il pas plus dangereux encore ? L'État, si l'on veut, peut être troublé par ce que peuvent dire les journaux, mais il peut périr par ce qu'ils ne disent pas. Il existe un remède très efficace contre leurs exagérations ou leurs impostures. Il n'y en a point contre leur silence. L'Angleterre a vu le danger et a voulu s'en préserver en posant en loi la libre circulation des journaux, comme la sauvegarde de l'État. Elle n'a pas cru que ce fût trop du public tout entier dont les journaux sont les sentinelles pour servir de contrepoids au pouvoir immense d'un ministère responsable. Ibidem. L'intérêt de la nation étant que les ministres soient éclairés. Ils ne doivent pas fermer eux-mêmes la seule voie par laquelle l'opinion véritablement générale peut arriver jusqu'à eux. Y a-t-il beaucoup à craindre des journaux, aujourd'hui qu'ils sont devenus presque la seule lecture des honnêtes gens, et que les écrivains les plus estimables ne dédaignent pas d'y travailler ? Sans doute, ils écrivent les uns les autres dans des principes différents. C'est un malheur inévitable, et qui a sa source dans l'opinion des deux principes monarchiques et républicains du gouvernement représentatif, que chacun, suivant son opinion, cherche à entraîner de son côté. Heureuse la nation dans telle circonstance, où ce combat n'a pour champ de bataille que les journaux. L'opinion armée n'a cessé en Angleterre que depuis qu'elle est devenue littéraire. L'opposition des journaux amuse les partis et trompe les haines. Ibidem. Guillemets. Que les représentants d'une nation, chargés de stipuler les droits et les garanties de la liberté civile et politique, confèrent par une loi à des hommes déjà armés du terrible droit d'emprisonner à volonté tout citoyen qui leur sera suspect, le droit plus étendu et plus dangereux d'étouffer toute pensée qui leur sera odieuse, et qu'ainsi les ministres, au droit qu'ils sont d'agir seuls, ajoutent le droit de parler tout seuls. C'est en vérité ce que tout législateur tremblerait d'accorder, même lorsqu'il croirait, comme citoyen, la mesure utile. Ne serait-ce pas compromettre, par ce dangereux exemple, la sûreté générale et future de l'État, en voulant lui ménager une tranquillité locale et temporaire ? Et ce roi, que la fable représente tenant tous les vents à ses ordres, pouvait exciter moins de tempêtes qu'un ministère investi de tout pouvoir sur les corps et sur les esprits. Ibidem. Fin des guillemets. Il est digne de remarque que tous les journaux employés à grands frais par tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pu, malgré leur influence, en soutenir aucun. Et que les journaux opposés, que la tyrannie a contrariés, tantôt à force ouverte, tantôt plus sérieusement, ont vu, ont fait à la fois triompher la cause qu'ils ont constamment défendue. Les gens les plus distingués dans les lettres n'ont pas dédaigné d'écrire dans les journaux et y ont défendu avec courage les principes conservateurs des sociétés. Dès lors, une succession non interrompue de journaux amis de l'ordre a entretenu le feu sacré. Ils l'ont entretenu parce qu'ils disaient, et même parce qu'ils ne disaient pas, lorsque forcés de se taire, ou même de parler, ils laissaient apercevoir leurs opinions particulières sous la transparence des opinions commandées. C'est cette opposition constante qui a conservé toutes les bonnes doctrines qui ont à la fois prévalu. Car il faut remarquer, à l'honneur de l'esprit national, que ces journaux sont les seuls qui aient joui d'une vogue constante. Tandis que les autres n'ont pu se soutenir même avec les secours du gouvernement. En sorte que l'on peut dire que le public a fait ces journaux, plus encore que les journaux n'ont formé le public, parce que les journaux expriment l'opinion et ne la font pas. Réflexion juste et profonde de M. de Brigode, et qui suffirait à décider la question. Ibidem. Avant que la presse fût libre, les chances en étaient moins assurées, parce que le pouvoir qui laissait une libre carrière aux mauvaises doctrines avait soin d'enchaîner les bonnes. Vainement, les royalistes avaient-ils réclamé, dans l'intérêt public, cette liberté dont ils sentaient le prix. Il leur a fallu du temps, beaucoup de temps, pour la posséder, parce que leurs adversaires en redoutaient l'effet. Enfin, la faculté d'écrire, arrachée plutôt qu'obtenue, a muni les amis de la royauté d'armes égales à celles des ennemis qui veulent la détruire. Et bientôt le nombre des lecteurs de chaque opinion a montré l'étendue de leurs forces relatives. Entre parenthèses, Monsieur le Marquis d'Herbouville, conservateur, tome 6, page 62-63. N'a-t-on pas vu naguère que les journaux tombés sous le joug du despotisme étaient devenus des instruments d'oppression et de servitude? C'est la meilleure preuve du danger de subjuguer les journaux. Entre parenthèses, Monsieur de Corbière, séance des députés, 29 janvier 1817. Supprimer un journal, c'est ruiner le propriétaire. Et cependant, on se joue avec une cruelle indifférence de cette propriété. Le propriétaire est ruiné, sans même qu'on puisse lui imputer le plus souvent une faute réelle. Ibidem. Si le ministre obtient le droit de donner ou de refuser arbitrairement l'autorisation aux journaux de paraître, il pourra la rendre onéreuse aux uns, la donner gratuitement aux autres, en favoriser quelques-uns pour les mettre en mesure de se soutenir contre l'opinion. Il pourra user des moyens les plus contraires aux droits garantis à tous les Français par les articles 1 et 2 de la Charte. Entre parenthèses, M. de Villèle, séance des députés, 27 janvier 1817. Thank you.